Nous voulons élever ton nom. Glorifie-toi, roi des rois.
Louange, oui, viens, roi des rois. puissant, tout puissant, oui, viens.
Oui, viens.
Oh, oui, viens.
Oui, viens.
Oui, viens.
Oui, viens.
Oui, viens.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui, Seigneur, ton nom est majestueux. Nous voulons une fois de plus te déclarer. Tu es glorieux. Que ton nom est majestueux. Le nom de Jésus,
plus haut que tous les noms,
roi des rois,
roi des rois,
aucun nom n'est comme le sien,
le nom de Jésus,
plus haut que tous les noms,
Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien.
Le nom
de Jésus, plus haut que tous les noms,
roi des rois,
roi des rois, aucun nom n'est comme le sien,
le nom
de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien,
aucun autre Dieu.
Aucun autre Dieu n'a vécu la mort, et Jésus-Christ le ressuscité, nous l'élevons plus haut. En son nom tout genou fléchit, en son nom tout homme est sauvé.
Nous invoquons son nom,
le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom comme le sien, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien, aucun autre Dieu n'a vécu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité, nous l'élevons plus haut, en son nom tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé.
Nous invoquons son nom, invoquons Jésus.
Jésus, Jésus, Jésus.
Oh, oh Jésus, Jésus,
Jésus, Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien.
Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms.
Roi des rois. Tous les noms, Alpha, Omega.
Voilà, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le défi pour nous, Église, c'est d'y prendre garde, d'être à l'écoute, d'écouter, à prendre un temps d'écoute d'une pensée, d'une parole. Et derrière, on continuera, on verra comment les choses vont se dérouler.
J'ai une pensée sur mon cœur. Ne savez-vous pas qu'une alliance est sacrée, inimmuable? Savez-vous pas qu'une alliance est scellée par le sang? Et on ne rompt pas une alliance sans conséquence. Que ce soit ton alliance que tu as fait avec ton Dieu, que ce soit l'alliance que tu as fait avec ta femme, tu portes dans ton cœur cette pensée d'aller vers la fin de cette alliance. Le Seigneur te rappelle ce matin que l'alliance est sacrée. Elle était scellée par le sang. Le sang du Fils de Dieu qui est mort à la croix pour toi et pour celle avec laquelle tu t'es uni et donné vie à tes enfants. Ne sais-tu pas que pour Dieu l'alliance est sacrée? Alors réfléchis bien. Les émotions sont passagères, mais les conséquences de ton acte seront éternelles. Réfléchis, entre en toi-même, approche-toi tout à nouveau de ton Dieu. Cherche sa pensée et demande-lui de t'aider à retrouver l'élan, les sentiments qui pour l'instant tu dis ne sont plus là et c'est pour cela que tu veux partir. Souviens-toi, Christ a donné sa vie pour toi, son sang a coulé pour toi et pour elle. Et vous êtes unis dans le lien d'une alliance sur laquelle Dieu a été témoin. Reviens à ton Dieu. Amen.
On va juste prendre un temps de réflexion intérieure, d'introspection aussi. On est tous engagés d'une manière ou d'une autre dans différentes formes d'alliance. Pas mal de couples sont engagés avec le Seigneur et peut-être d'autres personnes engagées en amitié, engagées avec Dieu. Je voudrais vous se proposer un temps d'introspection intérieure, un temps où à travers de ce qu'on vit, le Seigneur puisse travailler, mettre en lumière, apaiser. Donc on va se donner juste un instant comme ça de réflexion intérieure, de prière, et après on va prier pour que le Seigneur continue son œuvre, qu'on soit des hommes et des femmes où le oui est oui, le non est non, des hommes et des femmes d'engagement, d'alliance. Alors juste un temps de réflexion, de prière. Sentez à l'aise avec ça, vous pouvez fermer les yeux, vraiment de pouvoir prendre ce temps ensemble. Que le Seigneur parle à nos cœurs. Seigneur, je te prie pour ce temps maintenant de réflexion, d'introspection. Tu nous interpelles sur l'alliance. Dans un instant, nous allons prendre la scène qui est un des symboles les plus importants de l'alliance. Mais avant même que nous fassions quelque chose, Saint-Esprit, fais quelque chose dans nos vies. Interpelle, parle. Si quelqu'un a besoin de guérison ce matin, c'est le bon endroit dans la présence du Saint-Esprit pour qu'une guérison soit opérée, une restauration, un déclic. On te prie, Seigneur, de prendre soin des différentes alliances que nous avons faites en ta présence devant toi. Viens notre secours, Seigneur. Viens notre secours parce que nous n'ignorons pas qui nous sommes. Nous sommes dépendants de toi. Nous sommes des êtres humains. La grâce de Dieu fait que nous sommes devenus enfants de Dieu par l'alliance en Jésus-Christ. Mais aide-nous maintenant. Saint-Esprit, merci de la manière dont tu vas parler aux uns et aux autres dans ce temps de silence. Et juste après ce temps de silence, je reviendrai pour qu'on puisse continuer à prendre la scène ensemble. le bon moment dans le silence de ton âme de prier pour ton époux, pour ton épouse. Prier peut-être pour ton fiancé, ta fiancée. Prier ton Dieu pour cette alliance. C'est le bon moment dans le secret de la chambre de ton cœur. De dire, Jésus, continue ton œuvre, bâtis cette alliance avec moi, j'ai besoin de toi. Ne laissons rien nous détourner de l'alliance en Jésus-Christ. Seigneur. Seigneur Jésus, tu vois des prénoms qui sont montés dans ta présence, dans le secret des cœurs, des situations. Tu es le Dieu de la réconciliation, nous le croyons, nous le proclamons. Le Dieu qui guérit les cœurs brisés. Le Dieu qui est capable de réconcilier celles et ceux qui seraient irréconciliables. Nous te demandons, Seigneur, ta grâce, de continuer ton œuvre. Là, il y a eu ce temps de cœur à cœur et je te prie pour des prolongements dans les heures, les jours qui viennent. Avec des démarches profondes, peut-être de pardon, peut-être de s'asseoir ensemble, de prier ensemble. Seigneur, peu importe la forme que ça prendra, nous voulons être cette église qui continue à croire que Dieu guérit encore aujourd'hui. Cette église qui croit que Dieu guérit les relations encore aujourd'hui. Qu'il n'y a aucune relation dans laquelle tu ne peux intervenir, Seigneur. Te prions vraiment, Seigneur, pour ces alliances et que chacune de nos alliances t'honore. Honore, Seigneur Jésus. Amen. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 25 dit ceci. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu, le pain, et il dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Et c'est pour nous important de pas juste prendre la Sainte Cène ou la Cène, mais c'est de la prendre en ayant conscience que c'est pas juste un rituel, c'est pas une routine, c'est pas juste un commandement à suivre et il se passe rien derrière. Il y a vraiment des répercussions bénies quand une église se rassemble pour prendre ensemble les éléments de la part du Seigneur. Parce que Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Qui arrive à penser 24 heures sur 24 à la personne de Jésus-Christ? Merci Seigneur, je suis dans une église où on, comme moi, par contre, Dieu y pense, parce que Dieu est Dieu. Dieu pense à nous. Il ne sommeille ni ne dort. Et c'est pour ça qu'on a besoin de ces temps. Parce que si on ne prend pas un temps pour se souvenir de Jésus et d'être en cœur à cœur avec lui, il y a tellement de choses qui viennent compléter notre vie, bouleverser notre vie. Et j'aime cette fréquence que nous avons à l'EPI parce qu'elle nous permet justement de ne pas tomber juste dans une répétition à chaque dimanche, mais à un moment donné, tous ensemble, maintenant stop, on s'arrête. Et pendant un mois, on a été là, on a célébré, on a vécu des choses. Mais là, maintenant, on s'arrête. On est en église, on est là. Et on prend la scène devant le Seigneur Jésus-Christ. De même, après le repas, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. La nouvelle alliance en mon sang. Et ça me fait penser à ce texte. Il dit, il fait toute chose nouvelle. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. Souvenez-vous de moi. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. On sort de Pâques et on ne veut pas oublier que non seulement Jésus est mort, mais Jésus est ressuscité. Et nous attendons ce retour. Est-ce qu'il y a un peuple qui attend le retour du Seigneur ici? Alors on va prendre ces éléments dans cette expectative-là de dire, Jésus, jusqu'à ce que tu reviennes, nourris mon alliance, nourris mon cœur. Nourris ma relation avec toi. Renouvelle mes forces, Seigneur. Prenons ces éléments. On va prendre ce chant qui dit « Mon secours est en toi ». Que ce chant soit notre prière. Si la lune me glace, mon secours, Seigneur, est en toi. Et je reviendrai après ensemble. On garde les éléments juste. On va les prendre à la fin de ce chant, tous ensemble. On va s'attendre les uns les autres.
destin, ton salut, mon refuge, tout est ta victoire.
Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est.
Oh oui, ta victoire,
ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est.
Oh, une dernière fois,
ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi.
Oh oui, toi seul,
toi seul est ma force, toi seul me reste en mon secours, est en toi.
Cela fait un mois que nous n'avions pas pris la scène ensemble. Il s'en est passé des choses en un mois. Mais en un mois, notre Dieu ne sommeille ni ne dort, prend soin. Dieu fait grâce. Notre Dieu fait grâce. Et c'est une bonne occasion pour nous de regarder juste un instant en arrière et dire, Seigneur, jusqu'ici, tu nous as toujours secourus. Ta fidélité, elle est là, Seigneur. Je tombe, tu me relèves, Seigneur Jésus. Tu restaures mon âme. Seigneur, merci pour ces derniers jours. Maintenant, je veux prendre ces éléments, Seigneur, avec foi, que toi, tu es ce Dieu d'alliance qui tient toujours ses promesses. Alors, on va prendre ces éléments maintenant avec foi de dire, à chaque jour suffit sa peine, mais notre Dieu est le Dieu fidèle. Amen. Prenons ces éléments ensemble ce matin. Seigneur, si ce n'est pas ta fidélité, personne de nous serait digne de prendre ces éléments ce matin. C'est parce que tu es Dieu. C'est parce que tu es le Sauveur. C'est parce que tu es l'agneau qui a été sacrifié pour le pardon de nos péchés. C'est parce que c'est toi qui allais jusqu'au bout du chemin pour nous donner la vie et la vie en abondance. C'est parce que toi, Seigneur, tu intercèdes pour nous que nous sommes là ce matin. Tout nous vient de toi. Tout n'est que grâce. Alors merci encore ce matin de rassurer quelqu'un qui a besoin de se souvenir que son Dieu est fidèle. Merci Saint-Esprit de continuer à travailler nos vies encore dans cette journée. Quelle belle occasion de se rassembler et de laisser le Saint-Esprit, de laisser ces éléments nous interpeller sur qui tu es toi. Alors merci Jésus. À toi toute la gloire pour tout ce qu'on peut vivre ensemble encore ce matin et ce qu'on va encore vivre demain. À chaque jour suffit sa peine, comme je l'ai dit. Amen. Amen.
C'est bon de se rappeler ce que Jésus a fait, n'est-ce pas? Yes, merci pour l'équipe de louange, merci à l'équipe de Sainte-Seine, c'est vraiment des moments précieux. Comme l'a dit Mathieu, l'humain est vite oublieux. On oublie souvent l'essentiel et c'est tellement bon d'avoir justement ce genre de moment, ce genre de moment sacré qui nous rappelle à quel point Dieu est fidèle et à quel point en fait on a besoin de lui à chaque jour et de se rappeler ce qu'il a fait pour nous. Bienvenue à tous, à ceux que j'ai pas encore vus, puis bienvenue peut-être à ceux aussi qui viennent pour les premières fois. On est vraiment content de vous accueillir. L'EPI, c'est plus que le dimanche matin. Il y a différents groupes, ce qu'on appelle les groupes de vie, parce qu'on croit qu'il y a la vie quand on rencontre Dieu. Il y a la vie qui prend la suite. Il y a la vie dans les groupes, il y a la vie dans tout ce qui est relation à l'EPI. Et il y a différents groupes pour les aînés, pour les jeunes, pour les adultes, pour les familles, pour les célibataires. Bref, il y a différents endroits où on peut rencontrer des gens, apprendre à se connaître, rencontrer Dieu et grandir spirituellement. Tout ce qu'on fait, c'est pour qu'on puisse apprendre à connaître de plus en plus qui est Dieu. Parce que la Bible dit que la vie éternelle, c'est de connaître le seul et unique vrai Dieu. Donc tous les groupes de vie sont centrés sur ça, donc n'hésite pas, si ça te parle, si tu as envie de rencontrer des gens et de rencontrer Dieu, va au point d'accueil, il y a différents groupes, il y a un groupe qui peut convenir à qui tu es, à tes besoins et à tes centres d'intérêt. Donc pas d'annonce ce matin, mais juste un remerciement. Remerciement, on fait toujours tous les deux mois un point pour vous remercier pour votre générosité. Il y a différents moyens de donner, mais en fait, vous donnez généreusement, puis grâce à vous, en fait, on peut propager la bonne nouvelle de l'évangile par différents moyens qui coûtent des sous aujourd'hui, mais ça touche des gens. Ça touche des gens et l'année dernière, je sais pas si vous l'avez vu, mais on a quand même fait à peu près une trentaine de baptêmes. Et combien sont heureux de voir qu'en fait, toute notre générosité, elle touche des gens et des gens rencontrent Dieu avec ça. Vous êtes heureux pour ça? Moi, je suis prêt à donner s'il y a des gens qui peuvent rencontrer Dieu avec ça. Donc, merci pour votre générosité. Il y a trois moyens sécuritaires de donner: les troncs qui sont à l'arrière ici. Donc, on peut donner en liquide, on peut donner en chèque au point accueil ou par virement. Et le RIB est disponible au point accueil. Donc, trois manières de donner. Et encore une fois, merci pour toute votre générosité. Vous inquiétez pas, c'est rien, ça tombera pas plus bas. Merci à toute l'équipe de Sainte-Seine, en tout cas. C'est vraiment précieux d'avoir la logistique. Souvent, on oublie qu'il y a des gens, en fait, des bénévoles qui sont là pour servir et qui permettent qu'on puisse vivre ces moments. Donc, merci. Merci à vous. Yes! Fini pour mes annonces. Juste vous dire, à la fin du message, lors de l'appel, il y a des gens qui vont vous distribuer des petits papiers blancs. Je vous en dis pas plus, mais soyez pas surpris si des gens vont venir avec un petit papier blanc, ça va vous servir. Ça va nous servir à répondre à l'appel du message, justement, de notre oratrice invitée ce matin. Je pense que vous avez vu, on a fait la pub depuis quelques semaines maintenant. On a la chance et l'honneur d'avoir Anne Moureau avec nous ce matin. C'est une amie de la maison. Elle est pasteur, elle fait partie de l'équipe pastorale à Montpellier dans l'église Clé. Et puis on la connaît depuis des années, elle a été responsable notamment du groupe Solidéo, elle est toujours responsable du groupe Solidéo depuis maintenant 15 ans, 40 ans, voilà, deux siècles, elle était là depuis maintenant, pas 40 ans mais 15 ou 20 ans si je me trompe pas, donc c'est vraiment un honneur de l'avoir avec nous, c'est une amie d'ici, puis elle va venir nous challenger sur une thématique qui, je le pense, ouais, elle va venir nous challenger, donc je vous en dis pas plus, mais sans plus tarder, on peut l'inviter, Anne Moureau, on peut l'applaudir pour l'accueillir. Merci d'être là. Alors aussi tout un ministère auprès des célibataires. Comme quoi c'est possible d'être célibataire et heureux. Est-ce que vous le croyez? Amen. Amen. Juste prier pour Anne et après on va se laisser challenger par la parole qu'elle a sur son cœur. Seigneur, merci pour ces moments. Merci, c'est tellement bon juste ta présence, se rappeler ce que tu as fait pour nous. Puis maintenant on veut encore rester à ton écoute. Donc on te prie de venir inspirer encore Anne, de venir lui donner les mots que tu veux lui donner pour qu'on puisse comprendre ce que tu as à nous dire. Seigneur, viens nous aider à disposer nos cœurs. On va être à l'écoute de ta parole ce matin. On te laisse toute la place et à toi seul la gloire. Au nom de Jésus, amen.
Amen, merci Jérôme. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Alors, j'arrive de Montpellier. J'ai fait le trajet jusqu'à vous avec grand plaisir parce qu'en fait, il fait plus chaud ici ce week-end qu'il fait chaud à Montpellier. Donc, je suis très contente d'être ici. Et puis la deuxième raison pour laquelle aussi je suis très contente d'être ici, c'est que il fut un temps, il y a de nombreuses années, j'ai habité en Alsace en fait. J'ai même fait mes études ici à Strasbourg. Donc je suis contente de revenir et de connaître certains d'entre vous, de revoir certaines têtes, ça fait très plaisir. Nous sommes la famille de Dieu, amen. Même si on ne se connaît pas personnellement, en fait on est liés. On est ensemble ce matin, amen. Et pour commencer ce message, j'aimerais vous faire participer avec moi. Vous allez voir, alors, peut-être c'est un défaut de nous dans le Sud, on aime beaucoup que les gens nous répondent. Désolé. Mais je vais vous faire participer. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Je vais vous demander de lever le doigt vers le ciel, comme ça, tout le monde. Attention. les enfants, les grands, tout le monde. Et à trois, je vais vous demander de pointer le doigt vers vous-même. Est-ce que vous êtes prêts? Un, deux, trois. Et je regarde un peu ce qui se passe. Ok. Je vois que la plupart d'entre nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a pointé vers le cœur. C'est bizarre, pourquoi on n'a pas pointé vers le genou? Pourquoi on n'a pas pointé vers la tête? On a pointé vers le cœur. Ce matin, ça va être le sujet de mon message. Qu'y a-t-il dans ton cœur? Parce qu'en fait, qui on est, vous savez, on l'a fait là, on a pointé vers nous-mêmes. Notre cœur représente notre personne, hein, n'est-ce pas? Notre cœur, vous êtes d'accord avec moi, il est invisible. On ne le voit pas. Hein. L'organe physique, on ne le voit pas. Mais aussi, ce que notre cœur représente, c'est-à-dire notre être intérieur, on ne le voit pas. Mais qu'y a-t-il dans ton cœur ce matin? On est dans la présence du Dieu très saint, on l'a chanté. Peut-être on a l'habitude de venir ici chaque semaine, peut-être ça devient une routine. Mais j'aimerais nous rappeler que dans la présence du Dieu très saint, notre cœur est profondément transformé. Est-ce que tu veux que ton cœur soit transformé ce matin? Ça dépend de toi, ça dépend de moi. Et vous savez ce qui compte le plus, la Bible elle en parle, hein, ce ne sont pas les apparences. Même si vous êtes tous très beaux ce matin. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça, c'est invisible. En fait, on est des êtres invisibles. Est-ce que tu peux te tourner vers ton voisin et lui dire « T'es invisible, mais je te vois quand même. » Donc en sortant d'ici, ne jouez pas à l'invisible, hein, à la personne qui peut devenir invisible, mais c'est la réalité en fait. Notre être intérieur, il est invisible. Et vous connaissez certainement ce verset dans Proverbes 4, 23. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui, on va afficher le verset, de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Le cœur, vous savez, c'est très important. Dans la Bible, si vous êtes lecteur de la Bible, si vous faites un peu attention, que vous prenez un stylo et que vous surlignez toutes les fois où le cœur est mentionné, en particulier dans l'Ancien Testament, vous allez voir qu'il apparaît 800 fois le mot cœur. Et 91 fois dans les Proverbes seulement. La Bible dit « Dieu sonde le cœur ». Psaume 139. « Sa loi est gravée dans nos cœurs ». Jérémie 31. Jésus nous dit d'aimer Dieu de tout notre cœur. Matthieu 22. Etc, etc, etc. Vous savez, nous, le cœur, dans notre génération, on pense le petit cœur rouge qu'on envoie par texto à notre ami. On pense, mais ça veut dire l'amour, quoi. Ça veut dire les émotions, ça veut dire le romantisme, le cœur. Mais dans la pensée biblique, le cœur, ça veut dire bien plus que juste les émotions amoureuses ou même les émotions d'amitié. Le cœur, dans la pensée hébraïque, dans la pensée biblique, c'est le siège de toute notre volonté, notre intelligence, notre être intérieur. Et en fait, notre cœur reflète vraiment qui on est. La Bible dit « Tout comme l'eau reflète un visage, le cœur de l'homme reflète l'homme. » Proverbe 27, verset 19. Et dans le cœur aussi, on y trouve de tout. C'est-à-dire que le cœur, c'est aussi le siège de la moralité, si je puis dire. Il y a le bien et le mal qui sortent de notre cœur. Matthieu 7, 21, « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, etc. » Donc de notre cœur peut sortir quelque chose de bon, mais peut sortir aussi quelque chose de mauvais. Et je crois que c'est pour ça que Dieu nous encourage ce matin à garder notre cœur. Garder notre cœur, ça ne veut pas dire, vous savez, ne t'emballe pas trop vite, ne tombe pas amoureux trop vite, ou bien garde ton cœur, protège-toi, mets une protection autour de ton cœur pour pas être blessé. Ça ne veut pas dire ça, ce verset. Ce verset veut dire garde ton cœur pur, garde ton cœur saint, Veille sur ton être intérieur. Ton être intérieur est beaucoup plus important que d'aller à la salle de sport pour prendre soin de ton corps. Qui ici va à la salle de sport ? Pas moi. C'est pas pour encourager ceux qui ne vont pas à la salle de sport, mais c'est quand même plus important que notre être intérieur soit en bonne santé. Le fitness de l'être intérieur, on pourrait dire ça comme ça. Où est ton cœur ? Qu'en est-il de ton cœur ce matin ? En fait, garder son cœur, plus que toute autre chose, c'est laisser rentrer Dieu et expulser toutes les autres choses. Et si on est honnête ce matin, on sait que dans nos cœurs, oui, on a donné notre vie à Dieu, on a donné notre vie au Seigneur Jésus, on l'a accepté comme sauveur, mais des fois dans notre cœur, on a laissé des choses en cohabitation avec Dieu. Pardon. Et donc, quand je reméditais sur ce verset qu'on connaît bien, vous savez, les versets qu'on connaît le mieux dans la Bible, des fois c'est ceux justement sur lesquels on ne s'arrête plus. Mais ce verset est tellement puissant, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que ça me dit qu'il y a un danger. Si je dois garder une maison, si je dois garder une forteresse, si je dois garder quelque chose, ça veut dire que non seulement c'est précieux ce qu'il y a à l'intérieur, mais ça veut dire qu'il y a un danger à l'extérieur. Donc j'ai une mauvaise nouvelle pour vous ce matin, il y en a un qui est après votre cœur. Il s'appelle Satan. Et s'il peut faire que votre cœur soit brisé, s'il peut faire que votre cœur soit endurci, s'il peut faire que votre cœur tombe dans l'orgueil, alors lui il a tout gagné. Parce que du coup ça se voit pas, c'est à l'intérieur, mais il a fait en sorte que votre cœur soit partagé, que votre cœur n'ait plus la place totale pour Dieu, mais qu'il ait laissé rentrer du compromis. Donc, je le répète, quel est l'état de ton cœur ce matin ? Est-ce que tu as un cœur brisé, peut-être ? Il y a quelque chose qui est arrivé récemment qui fait que ça a brisé ton cœur. Quand on vit le deuil, vous savez, j'ai eu l'occasion d'accompagner une sœur dans mon église qui avait perdu son fils de 30 ans. Et elle me disait, tu sais Anne, quand ça s'est passé, et pendant des semaines et des mois après, mon cœur, il est brisé, mais physiquement, je sens mon cœur brisé. J'ai jamais expérimenté ça, mais j'ai entendu vraiment dans ses paroles la réalité que même physiquement, on peut avoir quelque chose qui nous a brisé, qui nous a fait du mal. Est-ce que ton cœur, il a été déçu peut-être ? La déception, peut-être déçu de quelqu'un, déçu d'un système, déçu même des fois de Dieu. On ne comprend pas pourquoi Dieu n'a pas permis ça ou ça dans nos vies. Est-ce que ton cœur est endurci peut-être ? Peut-être tu t'es protégé à l'extrême ou tu as laissé le péché s'installer, tu t'es habitué. Et le Seigneur, dans son amour ce matin, veut avec beaucoup de grâce te rappeler à lui. Te dire, mon enfant, je ne suis pas là pour t'accuser, mais je veux te parler de ton cœur. Parce qu'il y a quelque chose peut-être dans ton cœur qui est grave et qu'il faut traiter ce matin. Et Jérémie, le prophète Jérémie, au chapitre 17, va nous dire de la part de Dieu, « Moi, l'Éternel, j'explore le cœur. » J'ai une bonne nouvelle pour nous, c'est que Dieu, lui, il connaît nos cœurs. Il sonde profondément, en fait. Il va beaucoup plus profond que le meilleur des psychologues. Amen, c'est une bonne nouvelle. Hein ? Le Seigneur, l'Éternel Dieu, sonde et explore nos cœurs ce matin. Et dans nos cœurs, qu'est-ce qui s'y trouve ? Il s'y trouve souvent ce que la Bible appelle des idoles. Des idoles. Et j'aimerais qu'on lise ensemble un texte qui se trouve dans le prophète Ézéchiel. Il va s'afficher, ou si vous avez vos Bibles ou vos téléphones, vous pouvez suivre Ézéchiel chapitre 14. Ézéchiel, c'est un prophète qui écrit alors qu'il est en déportation à Babylone. La déportation à Babylone, c'est la deuxième déportation. C'est-à-dire qu'il y avait eu une première déportation du peuple du Nord, le peuple d'Israël. Le royaume du Nord avait été déporté en Assyrie. Puis une centaine d'années après, Juda, le royaume du Sud, avait été déporté à Babylone. Et là, Ézéchiel se trouve avec les Juifs déportés à Babylone. Il est là, il est assigné à résidence, il est au bord du fleuve, nous dit la Bible. Et il va se passer quelque chose, c'est qu'il va, des chapitres précédents, je ne sais plus, je crois que c'est au chapitre 8, il va parler aux Juifs qui étaient restés à Juda. Il va leur dire, il y a des idoles dans votre temple, c'est terrible ce qui s'y passe. Vous avez laissé rentrer des idoles de faux dieux, des dieux cananéens, des dieux des nations aux alentours. Et il va sévèrement reprendre le peuple d'Israël resté. Mais au chapitre 14, il se passe autre chose. Ézéchiel va parler d'un autre type d'idole. On va lire ensemble au verset 1. Ézéchiel 14, verset 1. « Un jour, quelques responsables du peuple d'Israël, vinrent me trouver et s'assirent devant moi. Alors, l'Éternel m'adressa la parole et me dit, « Fils d'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur et leurs yeux se tournent sans cesse vers ce qui les fait tomber dans le péché. Alors, vais-je me laisser consulter par eux ? C'est pourquoi, parle-leur et dis-leur, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Tout homme de la communauté d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et tourne ses regards vers ce qui le fait tomber dans le péché et qui consulte le prophète, c'est moi, l'Éternel, qui lui répondrai et je lui donnerai la réponse que mérite la multitude de ses idoles. Ainsi, je regagnerai le cœur de la communauté d'Israël qui s'est tout entière détournée de moi pour se tourner vers ses idoles. » Verset 6, c'est pourquoi dit à la communauté d'Israël, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel, repentez-vous, abandonnez vos idoles, détournez les regards de toutes vos abominations. C'est un message qui peut sembler dur, qui peut sembler direct. Mais vous savez quoi, nous aussi aujourd'hui, on a besoin d'entendre des messages directs de la part de notre Dieu. Je l'ai dit, qui est un Dieu d'amour. Et quand il pointe du doigt quelque chose dans nos vies, c'est pour notre bien et notre salut ce matin. Amen. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que les anciens, les responsables, on va dire religieux, qui étaient aussi déportés, viennent voir le prophète, viennent voir Ézéchiel. Je pense qu'ils espéraient une parole d'encouragement. Ça, c'est pas écrit dans le texte, c'est moi qui l'imagine. Je pense qu'ils espéraient savoir jusqu'à combien de temps on va être ici, quoi. Jusqu'à combien de temps l'exil va durer. Et ils veulent une parole à propos du futur. Mais Dieu va leur parler à propos de leur présent. Nous, on est comme ça aussi, hein ? Moi, en tout cas, je suis comme ça. Seigneur, montre-moi, qu'est-ce que je dois faire l'année prochaine ? Montre-moi qui je dois épouser. Montre-moi dans quelle église je dois aller. Montre-moi quel job je dois accepter. Et Dieu me parle d'autre chose. Et Dieu me dit, ma fille, connais-moi. Ma fille, quel est l'état de ton cœur ? Et qu'est-ce que va dire Dieu à ses responsables ? Il va leur dire, il va révéler au prophète Ézéchiel que ces gens-là n'ont pas des idoles, vous savez, comme on a l'habitude de penser. Quand on pense au mot idole, on pense statue, on pense chose un peu qui était là il y a longtemps, quoi. Ça ne nous concerne plus. Non, mais Dieu va dire, même à l'époque, qu'il y avait quelque chose de grave qui se passait, qui était invisible, que ces gens-là portaient les idoles dans leur cœur. C'est quoi une idole ? Comment vous définiriez le mot idole pour notre temps, en 2024 ? C'est quoi une idole ? Une idole, la définition qu'on peut en trouver, c'est qu'une idole, selon la Bible, c'est un faux dieu. Et Timothy Keller, qui est un auteur bien connu, a dit « Une idole, c'est toute chose sans laquelle on ne peut vivre. » Une idole, c'est en fait toute chose qui prend la place que seul Dieu devrait avoir dans nos vies, et dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos affections, dans nos motivations. Souvent, une idole, justement, on peut ne pas la reconnaître parce qu'à la base, c'est quelque chose de bon. C'est quelque chose de légitime. Par exemple, si je suis mariée, j'ai des enfants, ma famille, mes enfants, ma famille, bien sûr que je les aime et que c'est juste de les aimer, c'est légitime. Mais si ma famille, mon mari, mes enfants prennent la place de Dieu dans mon cœur, alors ils deviennent mon idole. C'est quand une chose bonne devient une chose ultime. C'est quand une chose qui, à la base, était bonne pour nous, on en fait la chose sans laquelle on n'accepte pas de vivre. En anglais, on dirait c'est quand c'est « a good thing » qui devient une « God thing ». J'ai entendu qu'ici, c'était une église internationale. C'est vrai, hein ? « A good thing » qui devient « a God thing ». D'accord ? Ça sonne mieux en anglais, non ? Ça, c'est une idole. Vous savez, il y a tellement de choses dans nos vies, si on est honnête, on veut Dieu plus ça, et alors on sera heureux. Comme l'a dit Jérôme, j'ai l'occasion de voyager dans les églises et de parler sur le thème du célibat. Et souvent, je challenge mes amis célibataires à ne pas vouloir le mariage, le couple, plus qu'ils ne veulent Dieu. Et à ne pas croire que le mariage te comblera, fera de toi une personne épanouie, comblée, qui ira beaucoup mieux. Non, c'est seulement Dieu qui peut faire ça dans ta vie. Et toi qui es marié, ne pense pas que quand ton mari va changer, alors ça ira mieux. Même si ça peut aider hein, les maris. Hein. Et inversement pour les femmes. Hein. Faut que j'en donne à tout le monde hein, ce matin. Mais on se trompe de combat, on se trompe de diagnostic quand on pense que cette chose va nous combler. Cette chose qui va changer, ça va enfin nous apporter le bonheur. Dieu est la source de notre bonheur. Amen. Et l'idolâtrie, c'est vrai, c'est un problème encore pour aujourd'hui. C'est un problème pour nous. Et j'ai remarqué qu'en fait, l'idolâtrie, c'est un problème dont la Bible parle beaucoup. L'idolâtrie, c'est en quelque sorte le péché à la racine de tous les autres péchés. Parce que tu ne peux pas aimer Dieu, tu ne peux pas adorer Dieu et adorer autre chose. Si tu veux adorer Dieu, alors il faut que tu arrêtes d'adorer ces autres choses dans ta vie. C'est un combat d'affection, c'est un combat d'alliance. On l'a entendu dans la parole qui nous a été donnée ce matin. Avec qui, avec quoi as-tu fait alliance? En quoi mets-tu ta sécurité? Donc l'idolâtrie, c'est un problème de cœur. J'espère bien que chacun d'entre nous, nous n'avons pas chez nous une petite statuette que nous adorons. Par contre, dans nos cœurs, il y a des choses que nous adorons. C'est quelque chose qui est plus profond, qui est ancré en nous. C'est des choses qui nous poussent, qui nous motivent, qui dirigent même nos actions, nos réactions. Et Jean Calvin a dit ceci, en fait, le cœur humain est une fabrique d'idoles. Si Dieu ne fait pas quelque chose, c'est obligatoire, c'est automatique que dans notre cœur, on va aimer, on va adorer quelque chose, on va placer notre sécurité dans quelque chose, ou quelqu'un, ou plusieurs choses. Par exemple, j'ai parlé de l'idole du mariage, ça peut être l'idole de l'argent, de la sécurité. Ça peut être l'idole de l'apparence. On place toute notre identité dans le fait que les gens nous reconnaissent, savent qui on est. Nous disent « Ah, t'es tellement beau aujourd'hui, t'es tellement belle aujourd'hui. » J'espère que quelqu'un vous a dit ça ce matin. L'idole aussi de l'indépendance. Moi, je me débrouille tout seul. Et vous savez, peut-être on ne le dit pas, on ne le verbalise pas, mais dans nos actes, on n'aime pas demander l'aide. C'est qu'on aime bien, on aime un peu trop se débrouiller par soi-même. Ça aussi, ça peut être une idole. On peut même avoir dans nos vies l'idole de « je suis victime ». Tu étais victime de quelque chose. Mais cette identité, ce statut, maintenant, est tellement t'as collé à la peau, est devenu ce par quoi tu te définis, tu vois tout au travers de ça. Et ça, dans ta vie, le fait d'être victime ou tes blessures intérieures peuvent devenir tes idoles. C'est terrible quand même. Dans le sens que, je me suis habituée et je ne veux plus les lâcher parce que finalement ça me rassure de savoir que je fonctionne comme ça et que je suis à plaindre. Pauvre de moi, je suis victime. Maintenant, si vous avez attention, hein, ce que je dis pas, c'est je ne suis pas en train de dévaloriser ou de dire c'est pas grave ce qui s'est passé pour vous. Mais en Jésus, nous pouvons être guéris. Mais des fois, nous avons gardé dans nos cœurs, en fait, ce statut, cette identité de victime. Et Dieu veut pointer du doigt ce matin que ça aussi, dans ton cœur, c'est peut-être devenu une idole. Il peut y avoir l'idole du statut, du regard des autres. Qu'est-ce que les autres vont penser ? Qu'est-ce que les autres vont penser de moi ? Vous savez, je dois vous avouer quelque chose. À chaque fois que j'ai l'honneur, le privilège de transmettre la parole de Dieu, je dis « Seigneur, je renonce à toute envie de performance ou que les gens disent « Oh, elle a bien prêché ». Je dois y renoncer parce que le cœur humain, finalement, on est tous un petit peu ou beaucoup attachés à ce que les gens vont penser de nous. Et ça aussi, ça peut être une idole dans nos cœurs. Peut-être dans ton milieu professionnel aussi. Ton poste, ta position de manager pour laquelle tu as beaucoup travaillé. Si demain tu devais la perdre, comment tu réagirais ? Vous savez, moi je me suis rendu compte il y a quelques années, Dieu m'a demandé d'abandonner mon travail pour être à temps plein missionnaire dans mon propre pays, travailler au sein de Solideo, au sein de mon église locale, etc. Et ça faisait des années que je sentais ça arriver, donc j'étais quand même un peu prête. Puis moi, je ne pensais pas être de ces gens matérialistes qui ont un peu un problème avec l'idole de l'argent ou voilà tout ça. Mais en fait, au moment où Dieu m'a demandé d'abandonner mon travail que j'aimais bien, que je gagnais aussi bien ma vie, on va dire, avec ce travail, là, j'ai réalisé que j'ai quand même un petit peu flippé. Je me suis dit, oui Seigneur, bon mais attends, comment ça se passait quand même ? Parce qu'en plus, mon patron, il voulait absolument pas me donner, une rupture conventionnelle. Fallait que je démissionne vraiment, donc pas de sécurité après. Mais vous savez, quand Dieu vous demande quelque chose fortement, vous savez que vous allez finir par capituler et dire oui. Mais ce que Dieu a révélé aussi à ce moment-là dans mon cœur, c'est que j'avais mis ma sécurité dans mon salaire. Et ça, c'est pas méchant, vous allez me dire. La plupart d'entre nous, Dieu pourvoit à nos vies au travers d'un salaire. Et merci Seigneur, alléluia. Mais on oublie que le salaire, notre sécurité, c'est pas notre salaire, que notre sécurité, c'est pas notre emploi, notre employeur, c'est Dieu derrière le salaire. Et que c'est un miracle chaque mois que Dieu pourvoit à nos vies. En fait, j'ai réalisé que je m'étais installée dans une sécurité, dans quelque chose de confortable. Et Dieu m'a fait le plus grand bien de me poser cette question. Anne, est-ce que tu veux démissionner pour moi ? Parce que quand je lui ai dit oui, ça a été une façon de marcher sur cette idole et d'y renoncer. Et de dire, je sais que je compte sur toi, Seigneur. Si toi, tu me le demandes, tu pourvoiras à tous mes besoins. Et c'est intéressant que l'apôtre Jean, dans son épître, dans sa première épître, il va conclure assez abruptement. Il ne va pas avoir des formules de salutation. Il ne va pas dire « je vous salue, que Dieu vous bénisse », etc. Il va finir avec cette phrase, 1 Jean 5, 21. Le dernier verset de 1 Jean, c'est « petits-enfants, gardez-vous des idoles ». Point. Comme si c'est la chose la plus importante à retenir. Et c'est le même verbe que dans Proverbe 4, 23. Garde ton cœur. Garde ton cœur des idoles. Garde ton cœur d'un amour pour autre chose que Dieu. Ta dévotion, ton amour pour Dieu ne doit avoir aucune concurrence. Dieu est un Dieu jaloux. Dieu t'aime plus que tout. Et c'est sérieux, hein ? Dieu ne tolère pas, ne peut pas tolérer d'être partagé en quelque sorte. Et c'est pour notre bien ce matin qu'il vient nous le rappeler. D'ailleurs, Jésus va même jusqu'à dire, dans Luc 14, celui qui vient à moi doit me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même à sa propre personne, sinon il ne peut pas être mon disciple. Certaines versions, certaines traductions vont dire, pour me suivre, si quelqu'un veut me suivre, il doit haïr son père, sa mère. C'est fort. Dans le sens qu'il faut préférer Dieu à toutes ces personnes que nous aimons profondément dans nos vies. C'est tellement important d'aimer Dieu plus que tout. Alors, comment on fait ? Comment faire ? Comment faire ? Si ce matin, l'Esprit de Dieu nous convainc, nous montre dans notre cœur qu'il y a quelque chose qui a pris une petite place, peut-être 20%, peut-être 10%, peut-être beaucoup plus. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait ? J'aimerais nous proposer trois choses ce matin. Trois verbes. Reconnaître, abandonner et remplacer. Reconnaître qu'on a un problème. Reconnaître qu'il y a une idole ou plusieurs idoles dans notre cœur. Pour reconnaître, comment on peut faire ? On peut se poser des questions. Ce matin, j'aimerais vous soumettre quelques questions à vous poser. À quoi est-ce que tu penses constamment ? À quoi est-ce que je pense constamment ? Pourquoi est-ce que je prie le plus ? Non pas que prier, intercéder, c'est mauvais, mais des fois, même dans nos prières, on oublie de prier pour le reste parce qu'on est on veut tellement une chose qu'on dit « Seigneur, donne-moi ça, s'il te plaît, je t'en supplie, donne-moi ça. Je veux ça, Seigneur. » Et ça occupe toutes mes pensées, toutes mes prières, à tel point que peut-être le Seigneur a dit « Mais moi, je voudrais que tu pries pour autre chose. » Qu'est-ce qui te fait peur ? Si tu crains quelque chose, plus que tu crains Dieu, cette chose est devenue ton idole. Si tu crains quelque chose, plus que tu crains Dieu, cette chose a la mauvaise place dans ton cœur. Par exemple, craindre l'avenir, craindre ce qui va se passer, craindre de perdre son emploi, craindre de perdre quelqu'un, craindre de finir seul. Pour les célibataires. Avoir peur de ce que les autres pensent de nous constamment. Cette question, elle est importante. De quoi ai-je peur vraiment, Seigneur ? Une autre question à se poser, c'est est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie, quand je ne l'ai pas, je suis triste et amère ? Une chose dans laquelle tu places ta confiance et ta sécurité. Par exemple, j'ai bien planifié ma semaine, j'ai bien planifié mon année, tout va bien se passer. Tout est calé. Moi, j'aime l'Alsace parce qu'en Alsace, on est bien organisé. Et donc, des fois, on place notre sécurité dans ça. C'est bien, c'est carré, c'est réglé, c'est bon. Mais dès que je perds le contrôle dans ma vie, tout d'un coup... Je suis vraiment pas bien. Parce que j'ai placé ma sécurité plus dans l'organisation, plus dans le planning, que dans Dieu lui-même. Dieu, des fois, peut complètement bouleverser nos plannings. Désolée de vous l'apprendre. Mais Dieu peut bouleverser nos plannings. Et c'est une très bonne nouvelle, des fois, de perdre notre sécurité, de perdre pied même. Et on ne sait plus à quoi on peut s'appuyer sur cette terre. Peut-être c'est ton cas ce matin. Dieu veut devenir ta sécurité et au travers de ça, il veut nettoyer ton cœur de l'idole du contrôle, de l'idole de « j'ai peur de lâcher le contrôle, j'ai peur de ce qui va se passer ». Donc reconnais ce matin ce qu'il y a dans ton cœur, reconnais-le. Le Saint-Esprit est en train, alors que je parle, de te montrer des choses. Et tout à l'heure, on aura l'occasion d'écrire ces choses. Sur un petit papier. Mais reconnais-le. Le Saint-Esprit ne va pas te forcer. Mais il va pointer du doigt quelque chose. La deuxième action à faire, c'est abandonner. Le prophète Ézéchiel, il va dire justement, au verset 6 du chapitre 14 qu'on a lu tout à l'heure, « C'est pourquoi, dit à la communauté d'Israël, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel, repentez-vous, abandonnez vos idoles. Détournez les regards de toutes vos abominations. Abandonnez vos idoles. Abandonnez vos idoles. Nos idoles, ce n'est pas quelque chose dont Dieu va nous délivrer, où il va les prendre à notre place et les virer de notre vie. Il nous demande à nous d'abandonner nos idoles. C'est notre job. C'est notre job. Alors c'était plus facile peut-être quand les idoles étaient physiques, quand c'était des statues, des bouts de bois, des bouts de pierre, de casser les idoles, de les faire brûler. Ce matin, on va avoir l'occasion d'écrire sur ce bout de papier peut-être les choses que Dieu nous montre et de déchirer ce bout de papier, de faire ce geste. Parce que nous devons abandonner. Le seul remède pour l'idolâtrie, c'est la repentance. Et il y a des choses dans nos vies qu'on ne veut pas abandonner. Il y a des choses, on n'avait même pas conscience qu'il fallait qu'on les abandonne. Un petit témoignage, je me rappelle, moi, il y a plus d'une dizaine d'années de ça, alors que je vivais, une peine de cœur, une incompréhension, j'avais pensé que peut-être ça, j'allais me marier avec quelqu'un, et vraiment, j'ai pleuré à la maison. Je vous livre mon cœur, ça reste entre nous. Ok. Et donc, vous savez, dans ces moments-là, voilà, il faut pleurer, il faut faire le deuil, il faut envisager l'avenir différemment, etc. Bon. Et donc, alors que je pleurais, je priais, je parlais au Seigneur, le Seigneur m'a posé une question qui a été salvatrice pour moi, qui a changé ma vie. Il m'a posé une question que je crois il veut nous poser aujourd'hui aussi. Il m'a dit, ma fille, est-ce que tu es prête à tout m'abandonner ? Et en fait, précisément dans le domaine sentimental, il m'a dit, Anne, si ça n'arrivait jamais, sous-entendu le mariage, dans ta vie, est-ce que tu continuerais de m'aimer et de me servir ? Il n'a pas dit ça n'arrivera jamais. Il a dit, si c'était cette option-là qui se passe dans ta vie, si ça n'arrivait jamais, est-ce que tu accepterais cette possibilité si c'est moi qui te la demande ? Et là, mon oui, il a été immédiat. Parce que quand Dieu nous pose une question, même douloureuse, même qui nous demande d'abandonner, on sent et on sait qu'on sait que c'est pour notre libération. Et j'ai dit, Seigneur, alors j'ai pleuré, mais j'ai dit, Seigneur, oui, je te donne toute ma vie dans ce domaine-là aussi. Mais Seigneur, c'est toi qui choisis. C'est pas moi qui vais m'inquiéter pour ça. Et depuis ce jour, il y a eu une liberté, une légèreté, une joie à servir Dieu, à ne pas me soucier de mon statut marital. Et j'aimerais encourager, je fais une parenthèse, hein, mais j'aimerais encourager tous ceux ici qui sont célibataires, peut-être séparés, divorcés, veufs ou veuves. Votre statut marital n'est pas votre identité. Et Dieu est dans l'affaire. Dieu veut utiliser cette saison de votre vie. Ne cherchez pas forcément à l'éviter. Et moi, depuis ce jour-là, quand je parle sur ce sujet, quand les gens me posent des questions, aujourd'hui j'ai 43 ans, et franchement, je suis la plus heureuse des femmes. Dans le sens que mon bonheur ne dépend pas du mari que Dieu va ou ne va pas me donner. Dans les deux cas, ma vie sera dans sa main. Dans les deux cas, je sais qu'il prendra soin de moi, en fait. Et c'est libérateur d'abandonner totalement, de renoncer à quelque chose, de renoncer même à l'envie de quelque chose. Et du coup, ce souhait finalement de se marier, ou ça peut être dans votre vie quelque chose d'autre, il revient à sa bonne place. Tu peux souhaiter te marier, bien sûr, sans avoir le mariage comme idole. Attention, hein. Tu peux souhaiter quelque chose, mais en même temps être dans la confiance, dans la sérénité. Tu peux prier, tu peux même supplier Dieu et en même temps avoir le cœur en paix. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Ça, c'est quand on abandonne nos idoles. Donc, abandonnons nos idoles. Et troisièmement, remplaçons nos idoles. Vous savez, une idole ne doit pas juste être enlevée, elle doit être remplacée. Parce que si vous laissez un vide dans votre cœur, il y a autre chose qui va venir. Si ce vide dans votre cœur n'est pas remplacé par Dieu, il va être remplacé par quelque chose d'autre. combat le feu avec un autre feu. C'est-à-dire, s'il y a un feu, un mauvais feu qui brûle dans ta vie, choisis le feu de Dieu à la place. Remplace ton amour pour ton idole par un amour encore plus grand pour Dieu, qui prendra alors toute la place. Pas 99%, 100%. Parce que plus tu vas connaître Dieu, plus tu vas l'aimer, plus tu vas chérir sa présence, plus tu vas sincèrement avoir soif de lui, plus il y a certaines choses qui vont disparaître en fait, qui vont pâlir. Plus l'attrait de ces autres choses, bah, tu vas te dire quelques années après, mais pourquoi je voulais tellement ça ? Mais la solution, ce n'est pas de se concentrer sur le « ça ». Seigneur, ça dans ma vie, oh là là, je ne devrais pas aimer ça. Comment je fais pour ne pas aimer ça ? Non, aime ton Dieu à la place. Aime Dieu plus. Et vous savez, notre problème, ce n'est pas qu'on aime trop quelque chose, c'est qu'on aime Dieu trop peu. Aimons Dieu plus ce matin. Remplaçons nos idoles par d'autres choses. Remplis tes pensées, tes journées différemment. Parce qu'une idole, ça n'arrive pas comme ça, en fait. Du jour au lendemain. Un matin, elle vient toquer à ta porte. Bonjour, je suis l'idole, je ne sais pas moi, du contrôle, de la sécurité, de l'argent. Non, elle vient petit à petit. Plus tu nourris tes yeux, tes oreilles, ton cœur, tes pensées par certaines choses, plus ces choses prennent de la place dans ta vie. Donc, la parole de Dieu est aussi très, très, très pratique. Pour remplacer une idole, il faut remplacer des choses dans notre style de vie. Par exemple, si je passe toutes mes journées à regarder des films romantiques, bien sûr que je vais avoir comme idole le couple, le romantisme, l'amour, etc. C'est pas étonnant. Remplace ce que tu regardes. Remplace ce que tu écoutes. Remplace ce à quoi tu penses. Fais mourir de faim tes idoles. Et nourris ta relation avec Dieu. Parce qu'une idole, elle finira toujours par nous décevoir. Toujours. Une idole nous déçoit. Des fois, on pense que c'est Dieu qui nous a déçus. Mais c'était ton attente, finalement, mal placée, mal dirigée, qui t'a déçu. C'est pas Dieu. Donc j'aimerais que maintenant peut-être l'équipe d'accueil puisse distribuer parmi nous les petits papiers. Parce que je pense que Dieu nous appelle à quelque chose ce matin, à faire un geste. Alors ce n'est pas le geste en lui-même qui est magique, ce n'est pas le geste qui compte, mais je crois que des fois dans nos vies, Dieu utilise le prophétique, le symbolique, pour montrer ce qui se passe dans notre cœur. Et j'aimerais demander, je n'ai pas prévenu, je suis désolée, est-ce que notre ami pianiste pourrait revenir ? Et alors qu'on va peut-être reprendre, vous savez, ce chant qui dit « Toi seul es mon Dieu ». Pas « Toi plus quelque chose d'autre ». Je veux renoncer à tous les autres dieux dans ma vie, toutes les autres choses à qui j'ai donné trop d'importance. Et je veux te redire, Seigneur, toi seul es mon Dieu. Même si je devais perdre tout, est-ce que tu es prêt à renoncer à tout le reste et à dire à ton Dieu, Seigneur, tu me suffis. Seigneur, tu me suffis. Et ce qu'on va faire, on va prendre un temps de réflexion, on va laisser le Saint-Esprit nous montrer. Et pour cela, on va poser une question au Saint-Esprit. Vous savez que le Saint-Esprit aime qu'on lui pose des questions. On va poser simplement une question au Saint-Esprit, on va dire « Saint-Esprit, montre-moi quelles idoles j'ai laissées s'installer dans mon cœur. » Peut-être il y en a déjà qui vous sont venues à l'esprit, vous pouvez commencer à les écrire. Mais le Saint-Esprit peut-être va vous montrer quelque chose dont vous ne vous doutiez pas. Saint-Esprit, on va se recueillir et on va vraiment poser cette question. Saint-Esprit, quelles idoles ai-je laissées s'installer dans mon cœur ? ne pense pas que tu n'es pas concerné. Avec tout l'amour, mais aussi l'autorité de la parole de Dieu, nous sommes tous concernés. Et c'est un moment de repentance, c'est un moment d'abandon. C'est un moment très, très, très sérieux. Si jamais il n'y a plus assez de papier, ne vous inquiétez pas, vous pouvez le noter sur vos téléphones ou sur un autre bout de papier. Saint-Esprit, montre-moi des choses plus profondes que ce que je pensais jusqu'à maintenant sur moi. Saint-Esprit, je viens devant toi avec humilité pour te demander de me pardonner, Seigneur. Seigneur, toi seul es mon Dieu. Toi seul me suffis. Toi seul, Seigneur, tu es tout pour moi. Il est hors de question que mon amour soit partagé. Il est hors de question que je me laisse voler ma communion avec toi à cause des choses que j'ai laissées rentrer dans mon cœur. Il est hors de question, Seigneur, que j'aime quelque chose plus que toi. Je veux y renoncer maintenant. Saint-Esprit, montre-moi la chose peut-être, la personne qui a pris trop de place dans mon cœur. Montre-moi cette peur, cette crainte qui est là, que j'ai acceptée, qui est là depuis toute ma vie, mais qui est en fait une idole. Je veux refuser ce matin, au nom de Jésus, que la crainte dirige ma vie. L'amour parfait, l'amour de Dieu bannit la crainte. Dans la présence et l'amour de Dieu, profondément, il n'y a plus de raison d'avoir peur. Et ce matin, je renonce, Seigneur, à ma peur d'être seule, à ma peur de ne pas être aimée, de ne pas être appréciée, de ne pas avoir un super ministère, à ma peur de la vieillesse, de la maladie. Je renonce à ça qui s'est installé dans mon cœur. Peur d'écrire. Personne ne va regarder ça entre toi et Dieu. On ne va pas ramasser les papiers après. C'est entre toi et Dieu. Fais ce geste. Ne sous-estime pas la puissance d'un geste physique qui symbolise quelque chose de spirituel qui est en train de se passer. Qui symbolise quelque chose dans ton cœur auquel tu renonces. Alléluia. Et puis quand tu seras prêt, peut-être, est-ce qu'on pourrait rechanter ce chant, toi seul et mon Dieu. Et alors que l'équipe va rechanter ce chant, chante-le différemment, en disant, c'est plus toi Seigneur plus autre chose, c'est toi seul. Et au moment où tu te sentiras prêt devant Dieu, comme un engagement, comme une alliance que tu refais, tu renonces à tes idoles, tu les abandonnes, tu déchires le papier. Tu déchires ce papier au nom de Jésus et tu le mets dans ton sac. J'aurais pu proposer qu'on le brûle, mais bon, c'était pas très réglementaire. Non, non. Mais spirituellement, il y a quelque chose qui va brûler maintenant. Il y a quelque chose qui doit brûler, disparaître au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que toi seul es notre Dieu. Nous nous réengageons avec toi, pour toi tout entier. Seigneur, nous te demandons pardon parce que nous avons vécu une vie chrétienne, des fois de compromis. Une vie chrétienne où nous avons accepté des choses dans notre cœur. Seigneur, pardon. Sincèrement pardon, Seigneur. Et nous ne voulons pas juste le dire avec nos lèvres. Nous voulons renoncer à ces choses. Et Seigneur, c'est comme si quand on vient physiquement devant l'autel, on dépose les choses et on ne les reprend plus. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, maintenant, agis dans les cœurs. Agis dans chacun des cœurs de mes frères et sœurs. C'est pas moi, Seigneur, qui peux changer les cœurs, transformer les cœurs. C'est seulement ton esprit, la puissance de ton esprit, qui convainc, qui va puissamment, profondément dans nos cœurs, Seigneur, qui nous fait lâcher ce qui en fait nous tenait esclaves. Je veux déclarer au nom de Jésus aussi qu'il y a des choses dans les vies qui te tenaient esclaves, dont tu vas être libéré parce qu'il y a une repentance ce matin dans ton cœur. Amen. Toi seul me suffis, Seigneur. Toi seul, tu es mon seul Seigneur, tu es mon seul Dieu. Amen. Alléluia.
Oh.
Quel message! Je pense que c'était un dimanche spécial où Dieu voulait vraiment qu'on prenne le temps de réfléchir, qu'on prenne le temps de se poser et puis faire une introspection personnelle et puis de voir, ok, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire? Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous encourage, peut-être, si vous n'avez pas rempli ce petit papier, faites-le chez vous, dans un temps calme, dans un temps où peut-être vous avez besoin d'être seul. Faites-le et je vous encourage aussi, si vous êtes à l'aise avec ça, partagez-le avec quelqu'un de confiance qui va venir aussi vous accompagner, vous challenger sur le fait, ok, est-ce que tu arrives à le déposer à chaque jour, ce petit papier-là, est-ce que tu arrives à le déchirer à chaque jour? Moi, en tout cas, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre mon papier, je vais téléphoner à un ami, je vais lui dire, bah, j'aimerais que tu m'encourages et que tu me challenges sur le fait de déchirer ce papier à chaque jour. Enlever les idoles du cœur quotidiennement. Merci, Anne. En tout cas, c'était conduit de Dieu, on le pense, avec la parole qu'il y a eu aussi, puis... C'est pas tout le temps qu'on a des dimanches comme ça, un peu plus calmes, un peu plus où on réfléchit, mais on aime ça. Avoir des temps de célébration forts et des temps aussi où le Seigneur veut nous parler dans un doux murmure aussi. Donc merci Anne pour ce message, merci à l'équipe aussi pour la direction. Et puis si le message t'a parlé, si t'as besoin d'être écouté, qu'on prie pour toi, il y a toujours l'espace écoute et prière sur ma gauche ici, où il y a des gens qui vont être là pour écouter, pour prier. Donc on est là aussi pour pouvoir digérer aussi ce genre de message et le partager avec quelqu'un. Donc n'hésite pas, juste demander à cette zone-là de bien vouloir juste évacuer pour laisser toute l'intimité justement à ces temps-là d'écoute et prière. Et merci à vous d'avoir été là. Il y a aussi une table dans le hall où il y a la vente de NEM aussi qui continue, donc n'hésitez pas à y aller pour soutenir aussi toutes les actions d'enjeu. Et on vous souhaite un bon dimanche, rentrez bien, une belle semaine en famille. Yes, on peut célébrer ce que Dieu a fait ce matin encore. Et on peut remercier aussi Anne pour son message. Merci Anne Moreau pour ton intervention ce matin. On souhaite un bon dimanche à chacun et n'hésitez pas, la zone écoute et prière. Bon dimanche.